Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on va commencer l'étude de l'Évangile selon Luc, qui sera notre étude suivie pendant l'année 2024-2025. Je me chargerai aujourd'hui de vous faire une introduction générale à l'Évangile, donc un balayage, et de vous expliquer aussi comment on va l'étudier pendant l'année. J'ai mis cette illustration. Souvent, quand on représente les évangélistes dans l'iconographie traditionnelle, on a le bœuf qui revient, qui est un peu l'image qui est attribuée dans vous savez, les représentations sur les animaux, alors qui sont pris dans Ézéchiel, dans l'Apocalypse. Et souvent, on a attribué à Luc cet animal, le bœuf, parce qu'il y a voilà, des sacrifices au début de sa vie, en particulier avec l'histoire de Zacharie dans le temple, même si finalement, d'autres disent, mais voilà, dans l'iconographie, il y a aussi un homme. Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt prendre cet homme comme image pour Luc? Parce qu'on le verra, c'est vraiment l'humanité de Jésus-Christ qui est présentée dans l'Évangile selon Luc. Néanmoins, je vous ai voilà, présenté ce qu'on attribue généralement comme animal à Luc. Alors, voilà, j'ai un plan. Alors, vous inquiétez pas, toutes les parties ne sont pas de la même longueur. Mais j'aimerais déjà commencer par réfléchir pourquoi quatre évangiles et pourquoi pas un? C'est vrai que c'est étonnant. Ensuite, on verra dans quelles circonstances Luc a écrit son évangile, comment il l'a construit, pourquoi il est différent des autres, et qu'est-ce qu'on peut en retirer particulièrement. Je finirai avec une brève présentation du plan de l'étude cette année. Donc d'abord, pourquoi quatre évangiles? Tout d'abord, une question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce que c'est qu'un évangile? Aujourd'hui, quand on prend un ouvrage ou quand on lit un livre, si on prend une biographie par exemple, on a envie d'avoir le maximum de détails et avoir l'ensemble de la vie d'une personne, de sa naissance à sa mort, avec vraiment une attention particulière à tous les moments et aussi une attention au contexte dans lequel cette personne a évolué. Ça, c'est la façon dont on voit les choses aujourd'hui. Et pourtant, si on lit l'Évangile, que ce soit l'Évangile selon Luc ou un autre, on va être un peu déçu. Parce que ce n'est pas un récit précis de toute la vie de Jésus. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on aurait envie que la parole ait cette précision-là. Et pourtant, ce n'est pas le choix qui est fait par les différents évangélistes. Et quand on regarde l'Évangile selon Luc en particulier, on a le début de sa vie. Le début de la vie de Jésus, les 2 premières années en particulier, on en a lu des passages tout à l'heure. On a quelque chose qui s'est passé lors de ses 12 ans, c'était le passage qu'a lu Pierre-Yves pour commencer. Et puis, l'essentiel de l'évangile selon Luc est concentré sur la fin de la vie de Jésus, les 3 dernières années ou 4 dernières années. Le ministère parmi voilà, ceux qui l'entouraient. Et donc, on comprend à la taille. La partie qui est réservée à cette vie, que c'est ça qui est important. Donc l'évangile, c'est pas une biographie de Jésus, c'est les moments importants de sa vie, et en particulier son ministère et sa mort. Les dernières semaines, les derniers mois de sa vie, en particulier la dernière semaine qui prend énormément de place. Et puis, l'Évangile n'est pas un livre comme ceux qu'on lit aujourd'hui, parce qu'aussi, il y a très peu d'attention qui est donnée au contexte. On ne va pas avoir beaucoup de choses sur la vie des gens à l'époque. On ne décrit pas qu'est-ce que ça voulait dire nécessairement être juif en Palestine au moment de l'occupation romaine. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tous ces détails-là. Aussi, c'est un livre qui est un peu déconcertant en évangile parce que ce n'est pas nécessairement chronologique. On va avoir des épisodes qui sont pris de différents moments et si on compare entre l'évangile selon Luc avec les autres évangiles, on a l'impression que voilà, les choses ne sont pas passées exactement dans le même ordre parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas l'ordre chronologique. On n'a pas vraiment les dates et puis il s'est passé ça et c'était très précis. Ensuite, il s'est déplacé comme ci, comme ça. En fait, on a des moments comme ça qui sont pris. Et le plan, en fait, il est plutôt thématique, et on verra l'importance de cette thématique et comment l'évangéliste Luc nous conduit à voir des choses différentes dans dans la vie de Jésus par thème. Et puis, il y a beaucoup de raccourcis. Et tu en as lu un tout à l'heure, tu as dit, bah, voilà, sur la vie de Jésus, on nous dit, bah, finalement, il grandissait. Et on n'a rien d'autre. Bah, c'est extrêmement raccourci. On a 12 ans en demi-phrase. Il grandissait. Voilà. On n'a pas ces détails dans ces moments-là. Et donc, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que plutôt que de prendre l'évangile comme une biographie, il faut le prendre comme une démonstration. L'évangéliste Luc, comme les autres, a quelque chose à nous dire. Il veut nous expliquer quelque chose. Donc il y a un objectif qui n'est pas seulement historique, mais qui est bien théologique. Il veut nous dire quelque chose de Jésus. Et donc j'ai repris ce tableau, hein. C'est pas moi qui l'avais fait, c'est Joël, mais où on a la différence entre les quatre évangiles et la façon dont chaque évangile attire l'attention sur un aspect de la personnalité de Jésus. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des quatre évangiles, mais je vous ai dit, hein, on a particulièrement la présentation de l'humanité de Jésus-Christ dans l'évangile selon Luc, et on le verra particulièrement cette année, je pense, avec une attention qui est donnée aux paraboles données par Jésus, aux sentiments de Jésus, la façon dont il sympathise avec ceux qui l'entourent, et les perspectives aussi qu'il donne sur l'avenir de l'humanité. Et on va voir ça pendant l'année. Alors, je disais, on a quatre évangiles, et on n'en a pas un. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de points communs entre les quatre évangiles. Et en particulier entre les trois qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc ont écrit des évangiles qui se ressemblent beaucoup. On les appelle synoptiques parce qu'ils nous donnent à la fois un aperçu complet et aussi parce qu'ils sont complémentaires entre eux et ils ont un peu la même tournure. Ils ont une approche qui est très comparable. Et on a identifié que la plus grande partie, celle qui est au centre en blanc, c'est... Des passages, 90 passages, 90 péricopes, comme on les appelle dans le langage quand on parle de la Bible, hein, c'est 90 passages de ces évangiles qui sont les mêmes, ou quasiment les mêmes, dans les trois évangiles synoptiques. Sauf qu'ils ne sont pas dans le même sens. Donc parfois, ça s'enchaîne, voilà, selon les évangiles, ça ne s'enchaîne pas de la même manière. Et puis, il reste d'autres passages qui sont propres à chaque évangile. Et donc, on voit que chacun a un peu aussi ses spécificités. Et donc aujourd'hui, je vais évidemment regarder plus particulièrement les spécificités de l'évangile selon Luc. Donc ça nous dit que, oui, il y a des choses qui sont communes, et c'est étonnant d'avoir trois évangiles, là on pourrait en avoir finalement peut-être qu'un, mais en même temps chacun a aussi son approche, sa particularité, parce qu'il ne s'adresse pas exactement aux mêmes personnes, parce que les témoins, alors en tout cas Matthieu par exemple était un témoin, il n'a pas forcément perçu les choses de la même manière que Luc qui lui raconte à partir du témoignage des autres, à partir de son enquête. Alors, pourquoi ça? Pourquoi il y a autant de points communs? Certainement parce qu'ils ont une source commune. Ça, voilà, ils ont peut-être rencontré les mêmes personnes. En tout cas, il y a des témoins oculaires, hein, je disais pour certains des évangiles. Et puis, il y a aussi des enquêtes qui ont été menées, et peut-être que voilà, les gens qui sont rencontrés ont raconté les mêmes choses. Certains exégètes aussi disent que les évangiles ont été écrits à partir d'une autre source qu'on n'aurait pas gardée, dans laquelle on aurait pioché des passages. Alors, ce n'est pas prouvé, et je ne vais pas rentrer dans des détails sur les hypothèses qui ont été formulées à partir des sources, mais c'est possible qu'en effet, des gens aient noté par-ci par-là ou qu'il y ait des recueils et puis qu'on voit au niveau du style, parfois ça varie, que bah, finalement Luc est pioché peut-être des citations dans cette source qui ne nous est pas parvenue, mais qui circulait peut-être à l'époque parce que bah, Jésus était quelqu'un d'important pour ceux qui avaient noté. Et puis voilà, on avait aussi des traces un peu éparses. Il y a aussi une chose qui est fondamentale. Quand on parle de l'évangile, c'est que ce n'est pas simplement un récit humain. Et comme toute l'écriture est inspirée, les évangiles sont inspirés. Et évidemment, le Saint-Esprit a conduit les évangélistes à écrire ce qu'ils ont écrit. Et dans l'évangile selon Jean, on a ce passage où Jésus dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Et à partir du moment où Jésus le dit, il annonce que l'Esprit-Saint va guider ceux qui devront raconter et même ceux qui devront écrire pour qu'ils se rappellent les choses importantes. On peut avoir confiance que finalement, quand on lit les évangiles, on a bien effectivement la parole de Dieu, la parole inspirée. Alors par contre, certaines fois, on se dit « Oui, mais alors c'est pas exactement la même chose selon les évangiles. Alors est-ce qu'on peut faire confiance sur est-ce que c'est vraiment les paroles de Jésus ? Est-ce que Jésus a vraiment dit mot pour mot ce qu'on lit là ? Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt l'esprit de ce qu'il voulait dire ? Alors c'est évidemment une chose qui est très... Enfin, on ne peut pas vraiment répondre à 100% puisque... J'étais pas là, je peux pas vous dire si vraiment Jésus a dit comme ça. Mais il me semble que, vu la concordance entre les différents évangiles, et on a à la fois l'esprit de ce que Jésus voulait dire, et aussi certaines fois vraiment du verbatim, dans la mesure où Jésus a beaucoup aussi répété ce qu'il disait. Et donc, c'est vrai que, à partir du moment où il a fait des discours à plusieurs occasions, où il a certainement, voilà, à différents publics, dit des choses qui étaient similaires. Son message n'a pas changé selon les jours. Et donc, finalement, ses paroles sont restées en mémoire de ceux qui les ont racontées, de ceux qui ensuite les ont mises par écrite. Donc, on peut penser quand même qu'on a quelque chose qui est proche du verbatim, même si évidemment ce n'est pas enregistré comme aujourd'hui on pourrait l'avoir et avoir une fidélité à 100%. Mais voilà, on peut quand même penser que c'est bien ce que Jésus a dit. Et puis, d'autres sources nous montrent que c'est bien ce que Jésus avait dit. Et puis, c'est bien le sens aussi de ce que Luc nous raconte, c'est qu'il a consulté des sources à la fois orales et écrites. Et je relirai tout simplement ce début de l'évangile selon Luc, où il raconte comment il a fait pour mettre par écrit ce qu'il nous raconte là. Donc début de l'évangile selon Luc, Luc donne sa méthode. « Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous, avec une pleine certitude, comme nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, qui est suivi exactement toute chose depuis le commencement, très excellent Théophile, de te les écrire par ordre, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruite. » Et donc là, il nous dit bien, voilà, certains ont écrit, et puis d'autres ont raconté, parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, et donc lui, il a consulté à la fois ses sources écrites et ses sources orales, et il les a compilées, et il nous dit « j'ai fait ça par ordre, j'ai organisé le récit ». Donc, on a bien une combinaison de différentes sources qui ensuite ont été compilées pour former l'évangile selon Luc, qu'il nous a transmis de cette façon. Alors, avec quel but ? Quand on lit l'évangile, on a cette expression, hein, « c'est paroles d'évangile ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Et souvent, quand on utilise cette expression, c'est pour plutôt donner un ordre moral. On cherche des conseils dans l'évangile, on cherche une manière d'agir, une manière de faire, on cherche à avoir quelque part, même peut-être parfois, une loi. On aimerait que ce soit la loi de Jésus. Et en réalité, l'évangile, c'est pas ça son objectif. Et c'est pas la façon dont même Jésus a voulu son message. Il n'a pas voulu nous donner une autre loi. Par contre, Jésus est venu pour se révéler en tant que personne, en tant que Dieu, parfaitement homme, qu'on a loué ce matin, et il a voulu se révéler à l'humanité. Et donc le but de l'évangile, ce n'est pas de nous donner la loi de Jésus, c'est de nous révéler la personne de Jésus. Et pour cela, on a différents moyens, et c'est la façon dont Jésus lui-même s'est révélé, hein. Il a voulu à la fois parler et mettre en pratique ce qu'il disait. Et dans le deuxième livre de Luc, qui est les Actes des Apôtres, il nous dit « j'ai composé le premier récit », donc il parle de l'Évangile, en disant sur tout ce que Jésus commença de faire et d'enseigner. Et donc on a bien cette combinaison dans ce que fait Jésus, enfin dans ce qu'on a dans l'évangile selon Luc, à la fois de ce que fait Jésus et de ce qu'il dit. Et on voit que les deux sont irrémédiablement, intrinsèquement liés en fait. Il y a vraiment la combinaison de à la fois prêcher et mettre en pratique, mettre en œuvre. Et c'est ça qu'on a dans l'évangile pour mieux connaître celui que nous avons comme sauveur et seigneur. Alors, là, j'ai repris aussi ce tableau où on insiste sur, encore une fois, la composition des quatre évangiles et donc la façon dont plus particulièrement l'évangile selon Luc va mettre l'accent sur le Fils de l'homme, même si on voit que les autres dimensions ne sont pas absentes. Évidemment, chaque évangile est là pour dire des choses sur Jésus-Christ comme roi, comme messie, comme serviteur, prophète, comme fils de l'homme, évidemment, et fils de Dieu. Mais c'est particulièrement l'aspect fils de l'homme qui va être présent dans l'évangile selon Luc. Donc ça, c'est petit récapitulatif de pourquoi quatre évangiles. Ensuite, je vous disais, mais alors, voilà, on va rentrer plus dans le détail de Luc lui-même et de ce qu'il a dit. Et pour commencer, donc, dans quelles circonstances est-ce que Luc a écrit? Alors, on n'a pas de présentation de Luc directement dans son évangile. On a des choses dans les Actes des Apôtres, mais il n'y a pas directement de présentation dans son évangile. Mais on sait que voilà, ils vont ensemble. Et d'ailleurs, c'est amusant aujourd'hui, si vous regardez, les Bibles, enfin les évangiles à distribuer, il y a maintenant des éditions Luc et Actes, parce qu'en fait, ce sont deux volumes d'un même auteur. Et ça va ensemble. On a voilà l'évangile qui va jusqu'à la mort, la résurrection, et puis après l'ascension, la Pentecôte, il y a la suite. Et Jésus continue d'agir à travers les apôtres, et c'est ce qui est raconté dans les Actes. Et donc Luc est l'auteur de ces deux ouvrages, de ces deux volumes d'un même ensemble. Et il y a beaucoup plus de choses dans les Actes sur qui est Luc. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'ils ont le même destinataire, Théophile. Donc, j'ai lu ce passage hein, où il appelle très excellent Théophile, celui à qui il écrit. Et puis, dans les Actes, hein, il y a aussi j'ai composé le premier récit, Théophile, sur tout ce que Jésus commença de faire et d'enseigner. Donc, il s'adresse bien à la même personne, ce qui nous permet de confirmer que c'est bien voilà, un ensemble. Et que les deux fonctionnent l'un à la suite de l'autre. Alors, je dirais un petit mot de Théophile dans un instant. D'abord, est-ce qu'on est sûr que c'est Luc? Alors, moi, je ne me place pas dans la lignée des auteurs du 19e siècle qui ont cherché à beaucoup critiquer, remettre en cause l'inspiration de l'écriture, et à chercher des sources autres, et puis en disant que l'évangile a été composé très tardivement et que ce n'est pas Luc qui l'a écrit. Parce qu'en fait, si on regarde dès le IIe siècle, donc très tôt dans l'histoire de l'Église et même dans l'histoire de manière générale, on a attribué cet évangile à Luc. C'est quelque chose qui ne semblait pas faire de doute. C'est en particulier sous la plume de Marcion, qui est pas un auteur antique. Dans les premiers canons aussi, donc les premières sélections de livres qui étaient retenus comme étant des livres inspirés, des livres importants pour les croyants, donc le premier canon, c'est le canon de Muratori, on a bien la reconnaissance de l'évangile selon Luc, qui est d'ailleurs un des premiers évangiles à avoir été retenu tel quel, et on a cette attribution à Luc dès le départ. Et puis, il y avait un petit ouvrage qui présentait aussi l'évangile, ce qu'on appelle le prologue de Luc, on introduisait l'évangile et on l'attribuait bien à Luc, il n'y avait pas de doute dès le IIe siècle sur cette... Sur l'auteur, donc ça laisse penser que Luc était bien l'auteur. Et c'est important parce que ça nous permet d'avoir confiance aussi. Hein. On pourrait dire oui, mais en fait, quelque part, ça nous échappe un peu. Pourquoi c'est important de savoir que c'était bien Luc? Parce qu'après tout ce qu'on va dire, ça repose comme c'est important d'avoir confiance dans la source de ce qu'on lit. Alors Luc, vous vous rappelez il y a quelques semaines, c'était il y a quelques mois, ton frère qui avait présenté Luc et en nous disant C'est une personne qui est très discrète et il avait mis en avant la façon dont l'évangéliste Luc, parce qu'il a ce caractère discret, a aussi une attention particulière pour la discrétion des personnages bibliques. Et c'est un message très, très doux, que j'ai trouvé très, très inspirant sur les détails qui sont présents dans l'évangile selon Luc pour des personnes qui sont discrètes et la façon dont Dieu se met en, voilà, se présente aussi comme quelqu'un qui fait attention aux timides, aux discrets. Et Luc lui-même ne se met pas vraiment en avant. On a cette apparition de Luc explicitement seulement presque à la fin des Actes des Apôtres, où on a l'apparition du nous. Et donc on comprend que c'est bien Luc qui écrit, qu'il était présent avec Paul dans ses voyages, mais voilà, il met pas des tartines sur ce qu'il faisait. Il est vraiment, voilà, c'est simplement dans l'apparition des pronoms personnels qu'on se rend compte que bah, oui, il était bien là. On le voit à plusieurs reprises ensuite dans les voyages à Jérusalem et puis ensuite à Rome. L'apôtre Paul en parle comme du médecin bien-aimé, donc on a une indication sur son travail, il était médecin, et proche de Paul, un compagnon fidèle, puisque quand Paul se retrouve seul en captivité à Rome, il écrit à Timothée, hein, Luc seul est avec moi. Et donc on comprend qu'il est resté jusqu'au bout avec Paul et qu'il a été un compagnon particulièrement proche de l'apôtre Paul. Et puis, on peut comprendre d'une citation des Colossiens que quand Paul fait la liste de ceux qui sont avec lui, il fait une liste des compagnons juifs qui se sont convertis, qui l'accompagnent, et puis il y a aussi tous ceux qui ne sont pas juifs. Et il met Luc parmi les non-juifs. Donc on comprend que Luc lui-même n'était pas issu du peuple, mais qu'il était à l'origine un non-juif qui s'est converti. Alors, à qui est-ce qu'il écrit? On a vu deux fois, donc à la fois dans l'Évangile et dans les Actes, qu'il s'adresse à un certain Théophile. Donc ça veut dire celui qui aime Dieu. Alors le fait que ce nom soit un nom riche de sens a fait penser que peut-être ce n'était pas un personnage réel, mais toute personne qui aime Dieu. Et donc on serait tous finalement des théophiles et que donc l'Évangile s'adresserait de manière générale à des croyants, des gens qui aiment Dieu et qui cherchent à savoir plus sur Jésus-Christ. Malgré tout, il semblerait que ce soit un personnage réel dans la mesure où la façon dont cette dédicace est organisée, la façon dont il l'appelle le très excellent Théophile, ça semblerait plutôt classique comme appellation, et donc on aurait bien affaire à vraiment quelqu'un. Ce qui n'empêche pas qu'on soit aussi des Théophiles, mais il y a peut-être bien une personne qui s'appelait Théophile. Et qui était quelqu'un visiblement d'important, sinon il ne l'appellerait pas ô très excellent Théophile, c'est une appellation plutôt pour quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un qui peut-être a financé Luc pour faire son enquête, peut-être quelqu'un qui avait Luc comme employé, en tout cas quelqu'un qui était en position d'autorité, un patron, qui aurait envoyé Luc, en tout cas qui lui aurait donné cette mission de rédiger l'évangile. Alors est-ce qu'il était croyant? On ne sait pas. On ne sait pas si Luc partage cette foi avec lui. Il n'y a pas d'indice particulier. Peut-être que c'était quelqu'un qui était en recherche et qui voulait justement savoir plus sur Jésus, qui lui était important pour Luc. On n'a pas de preuves sur ce qui est advenu de Théophile par la suite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres destinataires? Je disais, ben, on est un peu tous des Théophiles. Ben oui, avant même nous, il y a évidemment d'autres destinataires, puisque l'évangile a été très vite circulé, hein, il a été lu par beaucoup de monde, et donc on pense que Luc s'adressait en particulier à des gens comme lui, qui donc n'étaient pas juifs, et qui avaient un arrière-plan plutôt cultivé, des Grecs probablement, qui, comme lui, voilà, voulaient en savoir plus, et voulaient connaître la foi chrétienne. Et puis il y a nous, évidemment, puisque c'est maintenant dans nos Bibles, et donc Luc a aussi écrit avec l'inspiration et la parole de Dieu nous permet évidemment à nous aussi de profiter de ce qui a été écrit il y a des siècles de ça. Alors quand est-ce que ça a été écrit? Là encore, c'est assez difficile de trouver des preuves très certaines de l'écriture. Moi, je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas partisan de ceux qui disent que ça a été écrit bien après. Je pense que ça a été écrit par Luc au moment où il avait pu rencontrer des gens qui avaient rencontré eux-mêmes Jésus. Et donc probablement pendant les moments où Paul était en prison et où Luc avait du temps finalement pour rencontrer voilà, des personnes et ensuite rédiger cet évangile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la première lettre à Timothée, il y a une référence, et vous pouvez regarder la petite note qui est associée au verset 18 du chapitre 5 de la première épître à Timothée. On a une citation de l'évangile selon Luc, quelque chose qui n'apparaît que dans Luc, et Paul dit « l'écriture dit ». Et ça veut dire que déjà, à l'époque, on avait connaissance de ce texte, et que c'était reconnu comme l'écriture. C'était quelque chose que les croyants avaient sous les yeux, en tout cas qu'on lisait ici et là, et donc on pouvait déjà se référer à ce texte. Donc très tôt, cet évangile était connu. Donc, probablement la deuxième moitié du premier siècle, donc voilà, une trentaine d'années après le ministère de Jésus, donc très, très proche du ministère de Jésus-Christ. Alors, de quelle période on parle quand on lit l'évangile selon Luc? Ben, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. On sait que Jésus est né sous Auguste avant la mort d'Hérode le Grand, ce qui voudrait dire que Jésus serait né, c'était un peu bizarre de le dire comme ça, mais en 5 avant Jésus-Christ. Bon, les datations, voilà, c'est un peu artificiel, on le sait, hein, c'est des dates qui ont été décrétées par la suite, mais donc probablement, la naissance de Jésus, c'est moins 5, moins 4. Et puis, en fait, on peut se raccrocher à d'autres dates qui sont données dans l'Évangile, puisqu'on sait que Jean-Baptiste a commencé son ministère, au chapitre 3, on nous le dit, hein, la 15e année du règne de Tibère César. Donc, voilà, on peut essayer de calculer à partir de ces dates sur la grande histoire. On peut essayer de calculer à quel moment c'était précisément. Alors après, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quand Tibère a commencé de régner, puisqu'il y a eu une cogérance avec Auguste. Donc il y a 3 ans de battement. Mais globalement, on peut penser que Jésus a commencé son ministère entre l'an 26 et l'an 30. Et donc, voilà, probablement entre 27 et 30, même si ça peut se décaler un petit peu dans le temps. Et on peut rajouter peut-être 3 ans si on n'est pas. Voilà, on n'est pas tout à fait sûr de cette datation du début du règne de Tibère. En tout cas, ce qui est frappant, c'est de voir que l'essentiel donc se déroule dans l'évangile selon Luc vers la fin en fait de cette période de la vie de Jésus. Et on a vraiment du chapitre 4 au chapitre 19 vraiment une grande période qui est datée et qui se déroule voilà, dans ces 2 ans et demi, 3 ans de ministère, donc entre l'année 27 et l'année 30. Alors, je vous disais, c'est un livre qui est pas ordonné de façon chronologique, et donc on va voir comment c'est construit. Quelque chose d'important qui scande le livre de Luc, ce sont ce qu'on appelle les notices, qui sont des sortes de résumés, de raccourcis, où on se tourne vers autre chose, et Luc parfois accélère sur ces moments-là, et ça nous permet de comprendre qu'on passe à autre chose, et donc que ça, voilà, on est dans un moment charnière de la construction du livre. Donc ça introduit ou ça conclut les passages, les péricopes, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc on a des passages qui vont ensemble. Et puis, en introduction et en conclusion, on a ces petites notices qui nous permettent de comprendre que voilà, on change de sujet, là, on va sur autre chose. Et Luc va utiliser ça pour résumer, pour synthétiser, pour servir de transition et pour nous faire aussi anticiper ce qui va advenir. C'est-à-dire qu'il nous dit, il disait ça parce que... Voilà. Et là, c'est Luc qui nous parle et qui nous dit... Ouais, ça c'est important et on va passer à autre chose, mais gardez-le en tête quelque part. Ou voilà, ça c'est un petit passage. On a fini de parler de ça. Maintenant, parlons d'autre chose. Et donc c'est ça qui nous permet de comprendre la façon dont Luc a construit son évangile. Alors les notices, il y en a différentes, mais je vais vous donner un exemple. Hein, on n'a qu'à lire, je sais pas, je vais prendre sur le ministère de Jésus, je vais prendre celle du... Là, la troisième, c'est pour vous donner simplement une notice biographique, par exemple, donc au chapitre 8. Comme ça, vous verrez un peu comment ça fonctionne. Donc, début du chapitre 8, Luc écrit « Il arriva après cela, qu'il passait par les villes et par les villages, prêchant et annonçant le royaume de Dieu, et les douze étaient avec lui, et des femmes aussi, qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités. » Et bon, après, il continue. Et vous voyez qu'il passait par les villes et villages, il guérissait. On n'a pas les détails. C'est une manière pour lui de dire, bon, voilà, au chapitre 2, etc., on a eu des récits très précis, des micro-récits, et maintenant, on va passer à autre chose. Et donc, voilà, Luc accélère un petit peu, et c'est le début d'autre chose. Il résume, et ensuite, il va rentrer dans un autre moment où il va de nouveau ralentir la narration. Il va rentrer dans plus de détails, et puis on aura à nouveau d'autres moments, d'autres notices qui nous permettront de passer encore à d'autres histoires. Alors ça, c'est les notices biographiques sur la vie de Jésus, voilà ce qu'il faisait. Il y en a d'autres sur l'histoire, donc avec des allusions à ce qui se passe dans le monde, quand même, donc les empereurs, etc., bon, avec des résumés qui nous permettent de situer. Et puis, il y a des notices, ce qu'on appelle théologiques ou éthiques, où Luc va insister sur particulièrement ce qui se passait pour Jésus. Alors, notamment le fait qu'il était rempli de l'Esprit, par exemple. Et donc ça, ça revient à plusieurs reprises. Et Jésus étant rempli de l'Esprit, et donc ça aussi, ça introduit de nouveaux passages. On passe à un moment particulier de la vie de Jésus. Et puis, il y a des grands résumés aussi sur ce que Jean a fait, sur aussi les guérisons de Jésus, où là, à nouveau, Luc ne rentre pas dans les détails, mais nous permet de comprendre, voilà, en gros, ce qui se passait. Donc ça nous permet d'avoir des repères. On va le garder en tête comme point clé pour organiser le texte. Alors le plan, néanmoins, il est moins évident que dans d'autres évangiles, en particulier l'évangile selon Matthieu, qui lui est très bien structuré. On a un chapitre introductif, voilà, cinq chapitres qui vont ensemble, un chapitre conclusif, etc. Ou Jean, qui est vraiment aussi bien structuré. L'évangile selon Luc est un peu plus difficile à organiser. Mais ce qu'on comprend, c'est que on insiste surtout sur le ministère de Jésus et non pas sur son enfance. La dernière semaine est capitale, ça je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment le cœur de l'évangile. Et on conclut sur la résurrection. Donc on peut avoir, en gros, deux chapitres introductifs auxquels on a fait allusion ce matin, l'enfance, évangile de l'enfance, 22 chapitres qui vont ensemble. Ça serait un plan. Avec, en se disant, ben voilà, c'est 2 plus 22. Et encore une fois, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas chronologique, mais pour démontrer quelque chose. Après, si on regarde dans le texte, souvent ce qui est retenu comme le moment clé, le moment charnière dans le texte, c'est pas tellement 2 plus 22, mais ça serait plutôt du début au chapitre 9, et en particulier au verset 51 du chapitre 9. Et ça, c'est vraiment le moment où il se passe quelque chose dans le récit, et on comprend que là, on bascule dans un autre moment du ministère de Jésus. Au chapitre 9, Pierre reconnaît Jésus comme le Messie de Dieu. Ensuite, Jésus annonce la croix. Et là, on a ce verset. « Or, il arriva, comme les jours de son assomption s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem, où il se tourna vers Jérusalem. » Et ça, voilà, on comprend que, d'abord, on avait un ministère en Galilée, où Jésus était avec les foules, et ce qu'on a pu appeler l'entrée du Fils de l'homme. Voilà, il arrive, il rencontre les foules autour de lui, les foules se pressent, hein, on nous dit, autour de Jésus, il est en Galilée. Et puis à partir du verset 51, on a l'annonce de la croix, Jésus reconnu comme Messie par Pierre, et là c'est autre chose, c'est destination Jérusalem, et destination la croix. Et Jésus sait très bien vers quoi il va, c'est le but de son ministère, et régulièrement ensuite, je vous ai mis d'autres versets, on nous rappelle que Jésus est en marche vers Jérusalem et vers la croix. Et c'est bien ça le but de la deuxième partie. Et ça, on l'aura, ça scande aussi le texte. Il y a tous les épisodes, évidemment, qui le conduisent vers Jérusalem. Et à chaque fois, on nous rappelle, il allait vers Jérusalem. Donc, rappelez-vous ce verset hein, du chapitre 9, verset 51. C'est vraiment la bascule du ministère de Jésus. Alors là, c'est entièrement du Joël. mais c'est assez convaincant. Et c'est assez convaincant, pardon. Le fameux chiasme. Mais c'est vrai que c'est pas surprenant, on rigole là-dessus, mais finalement, c'est pas du tout surprenant qu'il y ait un chiasme dans un récit à l'époque antique. Ça fait partie des plans assez communs, finalement, de rédiger en chiasme. Et donc, c'est pas une lubie de Joël que de chercher ces plans en chiasme, parce qu'en fait, ça se faisait. Autant aujourd'hui, quand on est un sorbonnard, on va faire un plan en trois parties. Autant à l'époque, on va faire un plan en chiasme parce que c'est comme ça qu'on construisait un récit. Et donc finalement, chercher un chiasme, c'est aussi logique quand on est face à un texte antique. Et donc là, le chiasme a du sens dans la mesure où, comme dans toute bonne biographie, on a envie de dire, on cherche la naissance et la mort de la personne sur laquelle on écrit. On l'a, mais en B. Et comme c'est pas n'importe qui à propos de qui on écrit, on a l'annonce de sa naissance, la prophétie sur sa naissance, et on a sa résurrection. Et ça, c'est quand même pas sur n'importe quelle biographie qu'on trouve ça. Et puis, on a d'autres parties sur le début de son ministère, la fin de son ministère, donc ce serait les parties C et C', et puis les parties D et D', sur son ministère en Galilée, et le début de la route l'essentiel en fait de la route vers Jérusalem. Alors, vous voyez que c'est pas un plan comme aujourd'hui où on cherche à équilibrer les parties, mais finalement on a quand même ces thématiques qui se répondent et on voit que l'évangile est construit autour de ce verset clé donc du chapitre 9 verset 51. Donc ça fonctionne et on peut le garder en tête en tout cas de voir que vraiment on a l'entrée de Jésus, sa présentation, les foules. Et puis, le ministère qui se déroule ensuite vers Jérusalem, la fin de son ministère avec cette dernière semaine, sa mort et sa résurrection. Alors, quelles sont les particularités de l'évangile selon Luc ? Et je vais aller un peu plus vite, mais parce que ça, ce sont des thèmes qu'on va étudier peut-être plus particulièrement pendant l'année. Donc, je vous les présente de manière très rapide. Et ensuite, vous verrez qu'on en reparlera cette année. C'est un évangile qui s'adresse aux pauvres. Et ça fait écho à ce message hein, de ton frère, où on avait cette humilité de Luc. Et Luc s'intéresse particulièrement aux rejetés, aux pauvres. Et on voit que Jésus, c'est quelqu'un quand il est né, alors qu'il était Dieu, finalement, est né avec les pauvres. On sait, dans la mangeoire, il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Et Jésus se présente comme un pauvre. Et il est dans une famille pauvre. C'est l'offrande qui est donnée, qui est une offrande d'oiseau, qui est donc une offrande aussi signe de la pauvreté de sa famille. Et il va chercher en particulier ceux qui sont rejetés, ceux qui n'étaient pas au centre de la société. Ce n'est pas les riches qui l'intéressent. Au contraire, il va chercher ceux qui sont misérables, ceux qui sont aux marges de la société. Alors, ça ne veut pas dire qu'il rejette les riches, hein. Il parle à Zachée, mais on a ces passages où quand même, quand il y a un jeune homme riche qui se présente à lui, il y a quand même quelque chose qui on voit qu'il y a un problème avec les richesses et l'attention qu'on donne à ces richesses. Et ça, on va en reparler. Et l'invitation à la miséricorde et à la proximité vis-à-vis des pauvres. Ensuite, on verra que c'est un évangile qui s'adresse aussi particulièrement aux femmes et où Jésus s'adresse particulièrement aux femmes. Il y a beaucoup de femmes autour de lui et ça, c'est quelque chose de particulièrement flagrant dans l'évangile selon Luc par rapport aux autres. Il y a ces femmes qui sont avec lui dès la naissance, en particulier sa mère, mais aussi donc Élisabeth qui au même moment accouche de Jean. Il y a les femmes qui sont sur le chemin, qui l'entourent, qui le soutiennent, qu'il va guérir toutes ces femmes qui sont sauvées. Et on verra quelles sont à chacune. Hein, elles ont une problématique bien particulière et Jésus va à l'écoute de ces femmes et est là pour les guérir et pour leur annoncer qui il est. Et puis il y a des femmes aussi dans les paraboles et évidemment des femmes aussi jusqu'au bout près de la croix, alors qu'il reste plus grand monde, hein, il reste voilà, que quelques-uns, quelques-unes qui sont auprès de la croix. C'est un évangile aussi, on voit beaucoup Jésus en prière. Et donc ça nous permettra de réfléchir à la prière, de pouvoir prendre des enseignements de la façon dont Jésus lui-même prie, la façon dont il enseigne à prier. On voit qu'il y a d'autres aussi qui viennent le prier, qui lui demandent des choses. Et donc on aura des encouragements, je pense, sur la prière. Et Jésus lui-même encourage à prier, soit en demandant directement, prier, soit en racontant des paraboles sur la prière, y compris des prières qui vont jusqu'à agacer. Mais on verra que ça nous donnera aussi des enseignements sur la façon dont nous pouvons prier. Et Jésus est riche en enseignements et en exemples sur ces prières. Ensuite, une autre particularité des relations que Jésus a avec ceux qui l'entourent dans son ministère, c'est le fait qu'il passe beaucoup de temps à table. Et on a eu cette allusion tout à l'heure, hein, le fait que Jésus mangeait. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement présent dans l'évangile selon Luc. Une façon dont il crée du lien, une façon dont il va enseigner, une façon dont il va donner des exemples, c'est en se mettant à table avec les gens. Et là, je pense qu'on a, nous qui aimons bien manger, je pense, en tant que Français, et je crois qu'on le prouve aussi dans notre vie d'église, hein, mais je dis en rigolant, mais c'est finalement... moi, il y avait ce petit livre, hein, Meal with Jesus, je ne crois pas qu'il ait été traduit, mais on pourra en reparler, mais sur la façon dont Jésus enseigne grâce au repas. Et finalement, dans ce livre, et je pense que j'y ferai à nouveau allusion si j'ai l'occasion de reparler de Jésus à table, il y a aussi une chose très pratique, c'est-à-dire que puisqu'on aime bien manger, eh bien, on pourra montrer comment se servir de nos repas, puisque de toute façon, il faut manger. Hein. Les repas peuvent être une occasion de passer des moments avec des gens, et c'est ce que fait Jésus, et de leur enseigner des choses d'une autre manière. Et ça, c'est particulièrement flagrant dans la façon dont Jésus s'invite chez certains, chez les pharisiens, etc., la façon dont l'hospitalité est traitée, la façon dont... Voilà, c'est une occasion de parler, et une occasion qui peut être agréable. Donc ça, on en reparlera. l'évangile de la joie, je parlais d'être agréable, eh bien, l'évangile, c'est d'abord un message de joie, évidemment, c'est la bonne nouvelle. Donc il y a la joie de la venue de Jésus avec la venue de Jean, et évidemment, ça met ces femmes dont on a déjà parlé, hein, Marie, Élisabeth, elles sont évidemment en joie d'avoir l'annonce de leur bébé respectif. Et puis, évidemment, il y a la joie du message de l'évangile, la joie du salut. Le Sauveur est là et le Sauveur est venu pour sauver. Donc, on a dans les paraboles de Luc, de Luc 15, on a trois paraboles où on a la joie de ceux qui sont, voilà, la joie de celui qui retrouve ceux qui étaient perdus. Donc, c'est la joie à la fois du Père, la joie aussi de ceux qui sont sur le chemin, et malheureusement aussi des joies parfois perturbées, des joies mal placées. Et on pourra aussi en dire quelque chose. Où est-ce qu'on met notre joie? Où est-ce qu'on met notre bonheur, et on finira sur évidemment la joie de la résurrection, et Jésus qui n'est pas mort mais qui est bien vivant. Et une chose qui est frappante aussi et qui scande l'évangile, c'est le fait que l'évangile est inarrêtable. Et alors là, c'est quelque chose qui est que j'aime bien voir, c'est cette répétition des il faut, il faut, il faut, il faut. Dans l'évangile, on a ça, comme si, voilà, c'est ce mot qui court partout et on ne peut pas l'arrêter. L'évangile doit se répandre et le ministère de Jésus ne peut pas être arrêté. Rien ne peut l'arrêter. Il faut que ça se déroule comme ça. Et ça, Luc insiste beaucoup là-dessus et on pourra repérer ces « il faut » qui scandent le message et qui montrent voilà, comment ça avance tout ça. Et donc c'est évidemment ce qui, par-dessus tout, ce qu'il fallait arriver, ce qui devait arriver, c'est la croix et la résurrection. Et ça, Jésus en parle lui-même, hein, il faut que le Fils de l'homme meure et ressuscite. Donc on verra ça aussi au fur et à mesure de notre lecture. Et puis, puisqu'on parle de la joie du salut, voilà, on verra que c'est un évangile qui est tourné autour de cette réalisation du salut, qui est la réalisation d'une promesse d'abord, d'une prophétie. Ça vient d'il y a très longtemps, dans l'Ancien Testament, on avait annoncé ce prophète. Et c'est un salut qui est non seulement pour les Juifs, mais aussi pour d'autres. Et là, on a dans l'Évangile cette présentation du fait que le message s'adressait non seulement à Israël, mais aussi aux nations. Et donc, on verra comment Jésus parle lui-même du fait que c'est un évangile et un salut qui n'est pas réservé à certains, mais qui est bien pour le monde entier et qui concerne l'ensemble de l'humanité. Il en parle aussi en expliquant par des paraboles ce que c'est que ce salut, ce que c'est que le royaume. On lira ces paraboles. Et puis, dans les guérisons, hein, il parle de ce royaume de Dieu. Et donc, sans trop tarder, j'avais aussi quelques idées sur ce qu'on peut retenir. Et alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans les introductions, d'essayer de quantifier ce qu'on apprend particulièrement dans les différents livres de la Bible, en reprenant les grandes catégories de la théologie systématique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement insister sur certains points. Alors, l'évangile selon Luc, par exemple, ne dit pas grand-chose de la construction de la Bible. Par contre, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Elle nous dit que Jésus a bien été annoncé par les prophètes, donc l'Ancien Testament nous parle de ce que ensuite le Nouveau Testament nous dit. Et puis, ça nous parle aussi de la façon dont l'Évangile est composé et que l'inspiration se sert aussi de ce que Luc a fait comme enquête. Donc ça nous parle de la façon dont la Bible a été construite aussi. Alors par contre, elle dit beaucoup de choses sur Dieu lui-même. Et quand on dit théologie propre, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous dit de Dieu. Et là, on verra que Dieu est présenté comme ce Père accueillant, et on lira hein, ces paraboles, en tout cas particulièrement la parabole du fils prodigue, comme on dit, mais aussi du Père accueillant finalement, ce Père généreux, il est aussi présenté comme le vigneron. Et puis, on voit que c'est aussi Dieu qui a une relation avec son fils et Jésus en tant que fils qui a une relation avec son père. On le verra aussi par les prières, la façon dont il s'adresse à lui. Et on pourra comprendre quelque chose de la relation entre le fils et le père. Alors, puisque je disais, on parle du fils, comment Christ est présenté, comment le Christ est présenté dans l'évangile selon Luc, il est présenté de différentes manières et on verra qu'il est le Fils de l'homme, un titre qui est particulièrement utilisé dans l'évangile selon Luc, encore plus que dans les autres évangiles, avec une référence évidente à Ézéchiel. Hein, vous vous rappelez de notre étude du livre d'Ézéchiel, on a parlé de cette expression, hein, le Fils de l'homme, et c'est quelque chose qui est employé à propos de Jésus dans l'évangile selon Luc. Il est présenté comme le Messie, en particulier évidemment au moment de sa naissance, comme le Fils de Dieu, comme un prophète, hein, et puis comme le Sauveur. Et donc on pourra voir ces différents aspects de la personnalité de Jésus-Christ dans l'Évangile, mais avec un focus, je crois, qu'on voudrait donner particulièrement à l'humanité de Jésus. C'était une question qui avait été posée, et on en avait parlé hein, quand on a réfléchi à pourquoi proposer l'Évangile selon Luc, aussi à répondre à cette question de l'humanité de Jésus. Comment est-ce que Dieu a été homme et comment on le voit dans son humanité. Alors, c'est pas seulement l'incarnation, mais c'est aussi par ses caractères. Et on le voit dans son chemin, on le voit souffrir, on le voit pleurer, on le voit être angoissé. Il y a quelque temps aussi, moi je vous avais parlé de ce passage qui m'émeut particulièrement. On voit Jésus ému de compassion, vraiment remué au plus profond de ses entrailles pour les foules qui sont sans berger. Et je trouve que c'est... Voilà, c'est beau de voir Jésus aussi dans ce caractère-là, remué vraiment par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Et puis on le voit dormir, manger, voilà, on vient d'en parler, donc ça montre bien son humanité. On verra aussi ce que l'Évangile nous dit du Saint-Esprit. C'est intéressant parce que le Saint-Esprit, finalement, la Bible n'en a pas énormément parlé et c'est un mystère qui était caché jusqu'à cette révélation dans le Nouveau Testament. Et on a aujourd'hui le Saint-Esprit et l'Évangile selon Luc nous permettra aussi de voir qui est le Saint-Esprit et de voir comment il a agi. En particulier avec ceux qui entouraient Jésus, aussi avec Jésus lui-même, et la façon dont il agit aussi en nous, et ensuite parce qu'on peut en retirer aussi des enseignements, des promesses qui ont été faites aux disciples. Il y a peu de choses sur l'Église elle-même, donc je ne vais pas m'appesantir sur ce thème-là, mais on pourra retenir quelques enseignements sur la façon dont Jésus s'est comporté avec les apôtres, et ça nous dit peut-être quelque chose de l'Église, mais il n'y a pas beaucoup d'enseignements sur l'organisation de l'Église, etc. Ce n'est pas un thème central de l'Évangile selon Luc, mais plus dans les actes des apôtres, évidemment. Il y a aussi des choses sur la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschatologie, donc comment ça va se passer à la fin. Jésus nous parle du royaume comme étant... Là, et on est dans une période qui est un peu le commencement de la fin. Et vous savez, on a souvent cette expression qu'on est dans le déjà, mais pas encore. C'est un peu difficile à comprendre parce qu'on nous dit, on sait que pour nous, la vie éternelle a déjà commencé. Mais en même temps, on est encore là et on ne voit pas tout à fait. Et Jésus nous parle de ça. Ce déjà, c'est déjà là. La vie éternelle, ben oui, pour les croyants, elle a déjà commencé. Mais pour autant, on n'est pas parfaitement dans le royaume. Et Jésus nous parle de cette arrivée du royaume comme surprenante et cette vie dans cet intervalle qui est un petit peu voilà un petit peu exigeante un peu peut-être difficile aussi à saisir et Jésus est aussi assez explicite sur ce qui va se passer à la fin et donc on verra les détails sur ce qui se passe après comment la fin des temps va advenir et comment ça sera. Et donc, pour conclure, juste une proposition sur l'organisation de notre étude. Alors, vous vous rappelez, l'année dernière, on a envisagé un peu différemment les études et on avait proposé des blocs de plusieurs dimanches d'affilée pour pouvoir rentrer l'année dernière dans le livre de la Genèse. Et on s'était dit, ça nous permet de mieux appréhender le texte, de bien se rappeler ce qui était dit. Donc on fait des blocs un peu logiques, et puis ensuite on passe à quelques dimanches un peu différents, puis on refera un autre bloc ensuite. Bon, on va faire pareil cette année sur l'Évangile selon Luc. Donc aujourd'hui, on avait l'introduction, donc très générale. Et puis, on va continuer cette introduction avec l'humanité de Jésus et ses « il faut » dans les prochaines semaines. Et puis ensuite, on aura un autre bloc sur les miracles, avec la proposition qui est faite, c'est de regarder particulièrement ce qui se passait autour de Pierre, autour des exclus, donc j'ai parlé des marginaux, et puis des miracles autour de la résurrection ou des résurrections dans l'Évangile. Ensuite, un bloc sur les paraboles, ce qui nous permettra de aussi comprendre ce que c'est qu'une parabole, comment Jésus parle en parabole. Évidemment les paraboles de Luc 15, ça serait dommage de ne pas se replonger dans le plaisir des paraboles de Luc 15 et de la joie de ces paraboles. Ensuite, on propose peut-être la parabole du riche et Lazare, et puis des paraboles difficiles. Essayer de comprendre pourquoi elles sont difficiles, qu'est-ce que Jésus a voulu dire. Parfois on est un peu perplexe face à ces paraboles, mais on pourra regarder ensemble ce que ça veut dire. Ensuite, les enseignements de Jésus, qu'est-ce qu'il nous donne comme enseignement autour de la prière. Parfois, il est un peu excessif aussi. On pourra se poser la question de est-ce qu'il exagère et pourquoi il exagère, comment est-ce qu'il parle. Et puis, de ce qui se passe après aussi, quand Jésus ne sera plus là, comment il parle de ce qui se passe après. Et puis, je vous ai dit, c'est un évangile de relations. Et donc, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir un focus sur différents types de relations. Des relations de Jésus avec les femmes. On a parlé de l'importance des femmes du chemin, des femmes autour de Jésus. Des relations qu'il a aussi avec ceux qui s'opposent à lui. Comment il répond à cette opposition, ou il ne répond pas d'ailleurs parfois. On pourra regarder ça. Et puis ces moments à table. Et c'est bientôt l'heure d'aller à table. Et puis on aura donc une session de conclusion à la fin de l'année pour essayer de lier tout ça. Donc vous voyez, autant Luc n'a pas construit son évangile de façon chronologique, autant notre étude ne sera pas chronologique. On ne veut pas faire une étude qui soit verset par verset, mais plutôt essayer de mettre l'accent sur différents aspects pour essayer d'en retirer quelque chose, essayer de grandir dans la compréhension de ce que Luc a voulu nous dire de la personnalité de Jésus pour mieux connaître notre Sauveur et notre Seigneur.